Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers auditeurs, bonjour. Le thème abordé aujourd'hui tourne autour des Pyrénées, les Hautes-Pyrénées qu'on appelait autrefois les Pyrénées centrales. Pour les Toulousains, les Pyrénées ne sont pas loin d'eux. Et même sans les connaître parfaitement, elles font partie de leur environnement culturel. Ou de leur environnement, tout simplement. Très proches, ils savent l'influence climatique qu'elles représentent pour eux. On les voit, on les aperçoit au loin, signifie que le mauvais temps va arriver, disent certains d'entre eux. D'autres ne le pensent pas. Les voir, ces Pyrénées, couvertes de neige ou pas, parle plus aux habitants de la région que la météo nationale. C'est ainsi. Dans le Midi, on vit aussi avec les Pyrénées. Le livre d'Anne Lasserre-Vergne est non seulement un éloge chaleureux d'Henri Russell, moitié irlandais, moitié français, né en 1834 et mort en 1909, mais c'est surtout une ode à la montagne, à ce qu'elle évoque, à ceux qui lui sont proches, ou à ceux qui ont eu la chance de la connaître, même uniquement un peu. Elle ne laisse personne indifférent, les Pyrénées. Ce livre, consacré à Henri Russell, est une véritable déclaration d'amour entre Henri Russell et nos Pyrénées. C'est aussi l'éloge de ce massif montagneux, mal connu, avant l'arrivée de cet Anglais français. C'est la complète réhabilitation de ce massif. Grâce à lui, on découvre quelque chose d'accessible et l'enthousiasme du grimpeur, de l'ermite des Pyrénées, qui atteint des sommets jamais atteints, va ouvrir des horizons aux nouveaux pyrénéistes qui vont se présenter. Ils découvrent en l'approchant combien les montagnes des Pyrénées centrales et toutes les Pyrénées sont belles et majestueuses. Bonjour Anne Lasserre. Anne Lasserre-Vergne. Merci de venir à Radio Présence pour nous parler des Pyrénées, mais vous n'êtes pas complètement nouvelle à Radio Présence, vous êtes déjà venue pour parler des Pyrénées avec une émission qui s'appelait « Parle-moi des Pyrénées », c'était avant le confinement. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler plus précisément d'Henri Russell. Vous semblez, à la lecture de ce livre, aimer passionnément ces montagnes. Et je rappelle à nos amis auditeurs que votre attachement à ces montagnes est depuis très longtemps, car vous avez étudié, quand vous étiez jeune professeur, à Pau ou à Tarbes, je ne sais plus exactement, vous avez fait deux doctorats sur les Pyrénées, le premier sur les Pyrénées centrales dans la littérature française, et le deuxième doctorat sur le légendaire pyrénéen. Anne Lasserre-Vergne, vous êtes aussi une passionnée de littérature, vous croyez à la magie et au pouvoir des mots, vous donnez de nombreuses conférences, vous participez à des débats, mais je voudrais ajouter que vous êtes peut-être arrivé à si bien parler des Pyrénées, car vous êtes l'arrière-petite-nièce de Ludovic Gorier, qui était le fils adoptif d'Henri Russell. Je voudrais parler aussi de vos livres. Vous avez écrit de nombreux livres. Je vais en citer seulement quelques-uns. 103 écrivains du XVIe au XXIe siècle, ou Les Pyrénées au temps de Victor Hugo, ou un troisième titre, Notre-Dame de Garaison. Le livre que vous venez de faire paraître s'appelle L'âme en vrac. Il correspond à des nouvelles ayant trait à l'enfance, à l'amitié et aux amarres. C'est un livre qui est très différent de vos livres d'histoire. Et c'est votre dernier livre. Je voudrais terminer cette petite présentation en parlant de votre maison d'édition. Votre éditeur est la maison Kern, qui est installée à Pau, qui est éditeur des Pyrénées et du Grand Sud. Et cette maison d'édition, Kern, existe depuis 25 ans. C'est à vous, Anne Lasserre.
Bonjour Bélita. Oui, alors puisque vous parlez des éditions Cairn, je voudrais préciser que ce dernier livre sur les Pyrénées, Henri Russel, montagnard des Pyrénées, m'a été demandé par Jean-Luc Kerebel, qui est le directeur des éditions Cairn, et qui voulait écrire une petite histoire d'Henri Russel dans la fameuse justement collection Petite Histoire, qui obéit à des normes précises. Par exemple, il faut entre 120-150 pages, il faut des encadrés. Les encadrés, ce sont les fameux textes mis, par exemple, entre citations. Et c'est qui sont des citations. Et c'est une collection qui compte déjà une trentaine de livres. Petite histoire des villes, petite histoire des régions, petite histoire des mentalités. Voilà donc pour les éditions Cairn, effectivement.
D'accord. Donc c'est une maison d'édition dont il faut retenir le nom parce qu'elle pourra servir peut-être à certains de nos auditeurs qui écrivent eux aussi.
Voilà, et qui se trouvent tout près de Pau, à Morlas.
Voilà, qui s'occupent du sud de la France. Anne Lasserre, je vais vous poser quand même quelques questions que j'ai préparées. Parce que la lecture de votre livre, Henri Russel, montagnard des Pyrénées, ne m'a absolument pas laissée indifférente. J'ai été très émue en lisant ce livre et surtout passionnée d'apprendre autant de choses dans des sujets aussi divers, mais tournant toujours autour de cet amour des Pyrénées. Je voudrais savoir depuis quand vous êtes tombée amoureuse des Pyrénées, parce que à travers votre livre, on ne sent que votre amour pour les Pyrénées.
Alors, Bélita, c'est le fruit du hasard. Bon, si je remonte au tout début, l'éducation nationale qui me nomme dans les Hautes-Pyrénées. Et comme vous l'avez dit au départ, jeune enseignante, j'ai voulu faire une thèse et à Pau, on faisait des thèses régionalistes, d'où la thèse sur l'image des Pyrénées dans la littérature française. Puis, il y a eu cette autre thèse, mais entre-temps, il y a eu un événement assez particulier, une vieille malle qui a été découverte dans le grenier de ma grand-mère paternelle, à la mort de ma grand-mère paternelle, et qui était abandonnée là depuis 50 ans.
C'est une blague que vous me racontez ou c'est vrai ?
Mais c'est vrai,
le coup de la malle, c'est dans les romans.
Voilà, et bien, Bélita, c'était une vraie malle au trésor. Donc, mon père me la remet parce que, justement, je fais une thèse sur les Pyrénées. Et bon, je ne suis pas très contente d'avoir cette très vieille malle en osier qui m'encombre jusqu'au jour où je me décide à ouvrir la malle. Et c'était une vraie malle au trésor, puisqu'elle avait appartenu au grand pyrénéiste Ludovic Gorier.
Votre arrière-grand-oncle.
Voilà, mon D'accord. arrière-grand-oncle.
Donc ce genre d'histoire existe.
Ce genre C'est d'histoire vrai. Existe. Et je savais que si je me plongeais dans le contenu de la malle, c'est pour ça que j'ai hésité un moment, c'était pour partir pour des mois qui allaient se transformer en années de classement, de recherche, d'écriture. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Puisque j'ai écrit aussi deux ouvrages sur le pyrénéiste Ludovic Gorier.
D'accord. C'était en quelle année à peu près ?
Alors, le premier ouvrage, c'était dans les années, je pense, à la fin des années 1980. Donc, c'est 30 ans aux Pyrénées. C'était une biographie de Ludovic Gorier. Et alors, si j'ai choisi ce titre, c'est parce que dans la malle, il y avait une feuille sur laquelle était écrite de la belle écriture de Ludovic Gorier. Il demandait que l'on confie à une main pieuse le soin de trier les documents et d'écrire.
Anne Lasserre, la main pieuse.
J'espère. Et de donner le titre 30 ans aux Pyrénées.
D'accord.
C'est pour cela que ce premier ouvrage est biographique. Et le deuxième, il fait plutôt allusion à ses travaux de géologie, de limnologie, de glaciologie ou de spéléologie.
Je dois préciser que Ludovic Gorier est considéré dans votre livre comme le fils adoptif d'Henri Russel. Ils ont 40 ans d'écart, mais leur rencontre est vraiment très très forte et magnifiquement racontée dans le livre, même si c'est en quelques lignes. On voit que tout de suite, ces hommes se plaisent et se séduisent mutuellement. Et Ludovic Gorier, j'ai cru comprendre, en fait, ne pouvait pas parler. Donc, il ne faisait qu'écouter.
Non,
il était sourd.
Il était sourd, excusez-moi.
Mais enfin, ça n'a pas empêché cette relation extraordinaire entre Henri Russel et Ludovic Gorier, cet amour de la montagne et ces témoignages que vous nous transmettez, Anne, sur ces grands pyrénéistes.
Voilà, parce qu'il était sourd, je suppose. Il ne pouvait plus avoir une paroisse puisqu'il était prêtre. Il ne pouvait plus enseigner. Mais je pense que dans des conversations privées, cela ne devait pas le gêner beaucoup.
Il a surmonté cet handicap. D'ailleurs, il a fait tellement de choses qu'on peut bien dire qu'il a surmonté cet handicap. Il a fait des choses extraordinaires après. Merci pour cette réponse. Dans cette belle malle au trésor qui nous fait rêver, nous allons tous aller dans les greniers de nos grands-parents ou de nos parents. Après, je voudrais vous demander, puisque ce livre est plein d'émotions et que vous semblez aimer Henri Russel de façon intellectuelle et cette montagne des Pyrénées, pourquoi est-ce que vous avez voulu partager avec les lecteurs ou les auditeurs aujourd'hui cet amour des Pyrénées? Habituellement, quand on aime, on veut garder secrètement cet amour pour soi. Et maintenant, il y a sur ces Pyrénées beaucoup de touristes qui ne sont absolument pas ce que voulait Henri Russel, et peut-être pas vous non plus, des touristes sur ces belles montagnes pures et si magnifiques. Alors, comment il vous est venu à l'esprit de partager vos connaissances et votre amour de cette montagne au plus grand nombre, finalement?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Bon, d'abord, il y a toujours l'éditeur Jean-Luc Kerebel qui m'a demandé, par exemple, d'écrire les Pyrénées au temps de Victor Hugo, c'est-à-dire la façon dont on vivait dans ces montagnes au XIXe siècle, à la grande époque des stations thermales et où les célébrités de la fortune, des arts et de la politique venaient prendre les eaux. Il n'y a que Octave Mirbeau qui est désolé d'être obligé de passer 3 semaines à Luchon parce qu'il est désespéré d'être entouré de montagnes. Il y en a devant, derrière, à droite, à gauche.
Oui, vous le racontez de façon très amusante dans le livre, oui. C'est la seule personne qui est déçue
exactement.
Par ces Pyrénées.
Après, bon, il y a effectivement l'anthologie que m'avait demandé d'écrire aussi Jean-Luc Kerebel. Et nous nous étions amusés parce qu'on ne savait pas au bout de combien d'auteurs on allait s'arrêter, 99, 100. Et puis par jeu, nous avons adopté 103. Et j'avoue qu'après avoir lu tous ces ouvrages sur les Pyrénées à la fin du 18e et tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, pour répondre à votre question, de pouvoir partager ce que j'avais lu, ce que j'avais engrangé. Et je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais par exemple, j'ai découvert, et cela m'a fasciné, les différents regards, l'évolution du regard porté sur les Pyrénées aux différentes époques.
D'accord.
Est-ce que vous voulez que j'en dise deux mots?
Oui, volontiers.
Eh bien, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, on vient dans les Pyrénées en tant que scientifique. On est minéralogiste, botaniste. Bon, c'est encore des montagnes qui abritent des sorcières, qui sont un peu l'œuvre du diable. Elles sont effrayantes. Bon, et les curistes ne quittent guère les stations thermales. Au début du XXe siècle, avec l'influence du romantisme, on se promène dans les Pyrénées comme dans une galerie de tableaux. On est à la recherche d'émotions fortes, on les gravit un peu à cheval, il y a des excursions obligées comme au lac de Gaube ou au pic du Midi de Bigorre et on donne de grandes fêtes avec feux d'artifice dans un cadre naturel. Et justement, il va falloir attendre quelqu'un comme Henri Russel pour que dans la deuxième moitié du 19e siècle, on se lance dans la conquête des Pyrénées. Et je trouve fascinant cette évolution du regard qui se lit à travers tous les ouvrages que l'on peut lire sur les Pyrénées.
Évolution du regard, évolution du comportement des Français, évolution humaine.
Oui.
Oui, c'est modification du comportement.
Voilà, oui. Il faut dire qu'au début du 19e siècle, les stations thermales attirent beaucoup de monde et c'est le début du tourisme. Je crois que le terme tourisme apparaît en France en 1841 et qu'en 1838, si je ne me trompe, Stendhal écrit les mémoires d'un touriste.
D'accord.
Voilà, donc on va commencer à se déplacer par goût, en quelque sorte, non par nécessité. Et on va également se lancer dans la conquête sportive des Pyrénées. Pendant très longtemps, la conquête sportive n'était pas au goût du jour.
Hein. Pas du tout.
Pas du tout, on se déplaçait. On montait à cheval ou en chaise à porteur.
Ou en chaise à porteur pour les dames ou pour les gens handicapés.
Oui.
Oui, quelle époque.
Voilà.
Quelle époque différente. Que pensez-vous, Anne Lasserre, personnellement, du comte Henri Russel? Est-ce le dernier des romantiques ou est-ce un homme éperdu de solitude qui se réfugie dans les bras de la montagne?
J'ai cru que vous alliez dire est-ce le dernier des Mohicans des Pyrénées. Eh bien, alors, j'avoue que je connaissais le livre de Monique Dolin Dufresnel qu'elle consacre à son arrière-grand-oncle Henri Russel. Et quand j'ai abordé cet ouvrage, je suis partie de la lecture de souvenirs d'un montagnard. Et j'avoue que petit à petit, plus je lisais le livre, plus je me disais qu'il fallait aller à la rencontre d'un homme qui s'est pris de passion pour ces montagnes et qui en parle de manière remarquable. Quelqu'un qui se lance dans la conquête des Pyrénées, il faut bien le dire, puisque c'est lui, par exemple, qui va baptiser un certain nombre de sommets qui n'avaient pas de nom. Il donne au point culminant...
De nombreux sommets, il va nommer
voilà.
De nombreux sommets.
Il va aussi, oui, faire de nombreuses premières, effectivement.
Absolument, oui.
Et c'est lui qui donne, par exemple, au point culminant du cirque de Gavarnie, le nom de Pic du Marboré. Donc il y a tout cet aspect-là chez Russel, mais il est plus qu'un conquérant, il est plus qu'un montagnard. On ressent sa profonde humanité, sa culture, c'était un musicien, et tout cela se retrouve dans la façon dont il parle des montagnes, dans la façon dont il les aborde, dans la façon dont il les aime.
Oui. On peut dire que c'est un artiste, peut-être. Quand vous dites que c'est aussi un musicien, c'est un artiste, puisque nous verrons, j'avais préparé des questions sur le beau. Il dit qu'en fait, il ne faut se tourner que vers le beau. Il ne faut voir dans le monde que ce qu'il y a de beau, qui est preuve quand même d'une certaine philosophie, d'un certain détachement par rapport aux épreuves de la vie. Laissons tomber ce qui n'est pas beau et voyons que le beau. Et le beau de ces montagnes, ça la nourrit.
Oui, il est très sensible à la beauté et c'est pour ça qu'il fait aussi de nombreuses ascensions, en quelque sorte nocturnes, où il va passer de nombreuses nuits sur les Pyrénées, où il voit par exemple les glaciers qui changent de couleur, où il voit des pluies d'étoiles filantes, où les montagnes, les monts se transforment en monstres plus ou moins dangereux, ou en monstres mythiques. Il y a toute cette relation à la beauté qui est très profonde hein, chez Henri Russel, effectivement.
Rien ne paraît superficiel dans ce que vous écrivez, dans ses émotions.
Oui.
Tout paraît vraiment profond, ressenti, et plusieurs fois ses émotions reviennent, donc ça n'est pas le coup du hasard.
Non, ce n'est pas le coup du hasard, et en même temps, sur les sommets, il retrouve en quelque sorte un lien plus profond avec le divin. Il est comme relié à Dieu, son âme se sent plus légère, il est surtout bien loin de toutes les contingences humaines, les contingences matérielles, les conflits humains, et ça, je pense, lui apporte une grande joie.
Nous allons maintenant, pour donner, apporter encore plus de signification à ce que vous dites, écouter Siegfried de Wagner, puisque Henri Russel trouvait que parfois le vent qui soufflait dans les montagnes ressemblait au Siegfried de Wagner.
Parole d'auteur. Bélita de Bangy.
Dans votre livre, Henri Russel, Montagnard des Pyrénées, vous parlez plus de l'homme que des montagnes. Vous dites que les préoccupations humaines disparaissent avec le vent dans les cimes et le ciel bleu si pur des montagnes. Vous le pensez vraiment? Que les préoccupations humaines disparaissent avec le vent dans les cimes et le ciel bleu si pur des montagnes?
Je pense effectivement que c'est tout à fait possible. En tout cas, pour Henri Russel, c'était une réalité. Dans les montagnes, l'âme s'épanouit en quelque sorte, disait-il, sur les sommets. Il y a presque une relation d'âme à âme entre la montagne et Russel. Il y a une sorte de communion avec la nature, avec l'univers, avec le divin. Et d'ailleurs, il dit que la montagne rend plus sage. Elle oblige à se dépasser, elle oblige à se dominer, elle oblige à relativiser aussi.
C'est vrai que ce que vous venez de dire, on le devine plusieurs fois à travers le livre, mais quand même, l'âme s'épanouit dans les montagnes. S'il vous plaît, on peut vous prendre pour une personne très très originale de dénoncer ce genre de propos. Parce que s'il suffisait d'aller dans les montagnes pour avoir une élévation de l'âme, ça voudrait dire qu'on pourrait fermer certaines maisons, puisque les montagnes pourraient suffire. Enfin,
non, je pense que...
C'est l'idée de Russel.
C'est
si
l'idée de Russel,
alors,
oui.
Je comprends, mais est-ce que vous la faites vôtre, on dirait, dans votre livre, qu'en réalité, vous épousez cette idée?
Oui, moi, je la conçois tout à fait.
Voilà,
je
ça ne vous paraît pas une idée trop originale?
Non, même si Russel était un original,
oui,
je conçois tout à fait bien. Et on peut tout à fait, moi-même, j'ai ressenti une autre... Il y a des lieux qui sont porteurs d'autre chose en quelque sorte, où on se sent plus proche de la nature, plus proche de l'univers, plus proche de sa propre âme.
Ce livre est un témoignage pour l'élévation de l'être humain, finalement, au travers d'efforts physiques et d'épreuves physiques qui sont quand même difficiles parce que les éléments naturels sont très durs. En réalité, c'est une élévation spirituelle.
Oui, et je crois, si je me souviens bien, que Russel parlait des ascensions comme des différents âges de la vie. En bas, c'est l'enfance, on grimpe un peu, c'est l'adolescence, on grimpe de plus en plus, on devient adulte, on est obligé de franchir des obstacles, etc. Et enfin, sur le sommet, on atteint la sagesse, dit-il, on s'approche en quelque sorte d'un repos, pas forcément le repos éternel, mais de quelque chose de plus grand que soi, que l'on met à jour, en quelque sorte.
C'est très intéressant ce que vous dites. C'est peut-être pas facile à vivre, mais parce que tout le monde ne monte pas jusqu'au sommet de la montagne, on reste souvent en bas, mais c'est quand même une image très intéressante. Henri Russel n'arrête pas d'écrire dans son livre « Souvenirs d'un montagnard » qui se passe au XIXe siècle, que les montagnes ont tant à nous enseigner. C'est une idée dont nous avons déjà parlé un petit peu au début de l'émission. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui, au XXIe siècle, de dire ça? Est-ce que vous pensez que les montagnes pourraient donner une certaine spiritualité aux jeunes? Est-ce qu'on devrait, par exemple, entraîner les jeunes dans les montagnes pour qu'ils découvrent un autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui?
Je pense que c'est possible aujourd'hui à partir du moment où on quitte les sentiers battus et où on fait l'effort de gravir ces montagnes. Et justement, pendant que vous me posiez la question, j'ai pensé à un ami qui accompagne des handicapés, adolescents ou adultes, en montagne et qui dit que c'est extraordinaire que malgré toutes leurs difficultés, même physiques, ils arrivent à gravir jusqu'au point qu'ils doivent atteindre et ils ont une joie, la joie rayonne sur leur visage.
Ce que vous me racontez se passe dans les Pyrénées?
Oui, dans les Pyrénées.
Écoutez, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus souvent parce que nous ne sommes pas très bien informés de ce genre d'informations.
Eh bien, écoutez, il écrit aussi. Je pourrais, hors antenne, vous donner ses coordonnées.
Oui, tout à fait.
Il est, actuellement, il n'est pas très loin non plus de Toulouse.
Ça pourrait faire une suite, justement, à l'histoire de Russell et à cette élévation que nous promet Russell en suivant ses pas. Dans votre livre, vous dites que plus ou moins, Henri Russell a inventé les pyrénéistes en opposition aux alpinistes. Y a-t-il une différence entre les alpinistes et les pyrénéistes ?
Oh, alors là, Bélita, vous entrez dans un débat terrible qui agite certains pyrénéistes qui ne veulent pas entendre parler de pyrénéisme, mais plutôt d'alpinisme. D'autres qui donnent une définition très précise du pyrénéisme, qui est à la fois scientifique, étude de la nature, etc., ascension. Moi, j'avoue que j'emploie ce terme, peut-être par facilité, parce que ces ascensions se passent dans les Pyrénées. Et loin des débats actuels ou qui agitent le monde des pyrénéistes depuis quelques années, il me semble que Russell mérite ce titre à plus d'un titre, justement, oui. Même s'il est allé dans les Andes, même s'il est allé dans les Alpes, c'est vers les Pyrénées qu'il se tourne et c'est, finalement, il consacre des dizaines d'années de sa vie aux Pyrénées jusqu'à pratiquement à sa mort. Bon, bien sûr, il disait que les Pyrénées lui rendaient vie quand il est si malade dans les années 1906-1907. Il dit que s'il parvient à Gavarnie, il ressuscitera et le miracle se produit. Donc, il y a quand même ce lien très étroit. C'est pour ça que pour moi, je trouve, enfin, il n'y a pas d'autre terme qui vient sous ma plume que le terme de pyrénéiste.
D'accord. Dans votre livre, on parle évidemment de Gavarnie. Et il y a une petite anecdote de Henri Russell qui explique que les gens qui ont été dans les Pyrénées mais qui n'ont pas été à Gavarnie, mais pourquoi donc ont-ils été dans les Pyrénées ?
Alors, c'est Henri Taine.
Voilà,
c'est Henri Taine que l'on envoie, il est relativement jeune, les éditions Hachette l'envoient pour rédiger un guide aux Pyrénées, et lui se moque gentiment de la mode de l'époque, et justement Gavarnie, l'excursion obligée au 19e. Alors il imagine un dialogue, peut-être vous voulez le lire. Non, il imagine un dialogue entre des gens qui reviennent des Pyrénées, qui arrivent à Paris, et on leur dit « Mais vous avez vu Gavarnie ?»« Non. Mais alors, pourquoi êtes-vous venu dans les Pyrénées ?»
Voilà, c'est exactement ce qu'il y a écrit dans le livre, qui est très amusant. Il faut voir absolument Gavarnie. On peut d'ailleurs rappeler au passage que le cirque de Gavarnie a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui.
Et que donc, les Toulousains doivent connaître aussi non seulement leurs Pyrénées, mais l'histoire de Gavarnie, puisque c'est quand même très proche de nous. Dans le livre, vous parlez plusieurs fois, avec beaucoup d'élégance, de Monique Dufresnel, qui est, elle aussi, plus ou moins parente avec Russell, puisque c'est son arrière-arrière-grand-oncle. Comme vous êtes l'arrière-petite-nièce de Ludovic Gorier. Et je voudrais lire un petit passage de Monique Dufresnel sur Henri Russell. « Henri Russell était toujours d'une correction extrême, prenant ses repas avec eux, s'inquiétant de leur vie et de leur famille, tissant des relations d'amitié avec certains, comme Chapelle, les Passets, Aurine ou Bernard Sall, et même faisait creuser pour eux une grotte sur les flancs du Vignemal, afin qu'ils soient indépendants. Il était toujours très intéressant pour un guide d'aller en course avec lui, d'autant qu'il découvrit quelques talents et que ses recommandations valaient pour eux de l'or. » Dans ce petit extrait de Monique Dufresnel, on parle de grottes. Est-ce que vous pouvez nous parler des grottes qu'a fait construire Henri Russell dans la montagne, ce qui est quand même un événement incroyable, faire construire des grottes dans une montagne?
Ah oui, Henri Russell est un personnage extraordinaire. Il obtient de louer le Vignemale pour 99 ans Et il y fait creuser, il y fera creuser 7 grottes au cours de plusieurs années. La plus haute, c'est la grotte du paradis, qui est presque au sommet du Vignemale. Il y avait la grotte des dames, la grotte des guides, etc. Et ce qui permettait non seulement de recevoir des amis en pleine montagne, mais les bivouacs d'altitude permettent aussi d'atteindre plus rapidement des parties beaucoup plus éloignées aussi des Pyrénées. Et je crois que c'est en 1884 qu'il fait célébrer 3 messes dans la Villa Russell, peut-être, donc grotte du
Vignemale. La grotte du paradis ou dans la grotte du paradis
ou la Villa Russell. Enfin, il y a 3 messes qui sont célébrées dans l'une des grottes du Vignemale, puisqu'il y a 7 grottes en tout.
On considère à l'époque que c'est l'église la plus haute d'Europe.
Oui,
voilà. Oui, il y a 30 de personnes qui assistent à ces messes.
Voilà.
Oui, c'est quand même incroyable. Donc, il prenait soin des autres et c'était quand même un grand original de faire construire ces grottes.
Ah oui, surtout à l'époque, parce que il faut monter le matériel à dos d'âne. On creuse parfois les crottes avec des baramines. On essaie la dynamite, mais ça marche plus ou moins. Enfin, c'est un travail énorme qui va occuper pendant plusieurs années.
Alors, en fait, on voit à travers votre livre, Henri Russell, montagnard des Pyrénées, chère Anne, on voit que si Henri Russell, lui, pousse toujours sa vie, ses conditions de vie, tout ce qu'il fait à l'extrême, en réalité, les gens qui l'approchent font de même. Ils sont obligés, eux aussi, de se dépasser en permanence. C'est une locomotive, quelque part. Et d'ailleurs, quand Monique Dufresnel dit que ses recommandations après valaient de l'or, c'est qu'il pousse les gens qui l'entourent à se dépasser en permanence. Donc, c'est quand même une belle histoire. Et toujours avec bonheur et amitié. On voit qu'il n'y a jamais... On a l'impression, en tout cas dans votre livre, que les choses se passent toujours avec une grande harmonie.
Oui, je pense que c'était un être qui, autour de lui, pouvait en quelque sorte semer l'harmonie. Et oui. Ne serait-ce que pour gravir la montagne jusqu'aux grottes, il fallait quand même déjà se dépasser, surtout quand les dames y arrivaient en robe, par exemple. Donc, effectivement, il faut toujours faire des efforts. Et si vous permettez, par exemple, dans Souvenir d'un montagnard, il y a toujours beaucoup d'axiomes. Il a des phrases qui ont une portée de vérité générale. Par exemple, il écrit « Sur les montagnes, la solitude est enivrante » ou « Plus on s'éloigne de la nature, moins on est heureux. » « Plus la nature est solitaire, plus elle est séduisante. » Il a plein de petites phrases comme ça qui sont des formules de sagesse.
Oui, un peu de philosophe.
Et de philosophe aussi.
Oui.
C'était un philosophe.
Oui. Alors, habituellement, on imagine toujours les philosophes comme des gens qui n'ont pas les pieds sur terre, mais alors lui, c'est quand même le contraire. C'est donc, on peut dire, plus réaliste et plus concret, vu toutes ses ascensions. Et en même temps, il réfléchit comme un philosophe. Il produit des citations, il sort de ses épreuves, des citations que nous pourrions peut-être comparer à celles du Petit Prince, parfois.
Oui.
Parce que vous l'avez cité.
Oui.
Saint-Exupéry.
Oui, c'est vrai que je cite le Petit Prince, parce qu'on sent que Russell et la montagne s'apprivoisent l'un l'autre.
Oui, tout à fait. On le ressent bien dans ce que vous écrivez, oui.
Et la façon dont il finit par parler de la montagne comme une éternelle fiancée, il en parle de sa passion pour la montagne, de son amour. Je crois même qu'à un moment, il parle de mariage ou de fiançailles avec la montagne.
Oui, c'est un peu surprenant, mais en effet, il le dit.
Oui.
C'est vrai que ça nous dépasse un peu aujourd'hui.
La montagne devient un être, voilà. Mmh.
Oui, c'est exact.
À part entière.
Dans votre livre, Anne Lasserre, vous citez de très nombreux auteurs disparus aujourd'hui, comme Victor Hugo, Mallarmé, Saint-Exupéry, Baudelaire, le docteur Sabatier, Gaston Bachelard, et encore beaucoup d'autres. Les lecteurs pourront apprécier vos recherches nombreuses pour élargir leur vision de l'horizon pyrénéen. C'est vrai que dans tous ces auteurs, il y a des points communs avec Henri Russell. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. on ne s'attend pas du tout, en lisant Henri Russel, Montagnard des Pyrénées, à trouver des citations de Victor Hugo, de Baudelaire. C'est très surprenant et j'apprécie beaucoup ces recherches que vous avez faites pour mettre en relation des gens qui paraissent aux antipodes, mais qui en réalité ne sont pas aux antipodes. Tous ont un rapport avec la montagne, avec l'effort. Vous leur montrez les points communs, vous montrez leurs points communs avec Henri Russel. Après, vous parlez d'un autre auteur qui, lui, est contemporain. Vous parlez bien sûr de Monique Dufresnel, qui vit en ce moment à Bordeaux, qui est une écrivaine connue. Et vous parlez aussi d'un auteur qui n'est pas du tout un historien, mais qui est quand même très connu de beaucoup de gens, qui s'appelle Étienne Klein. Étienne Klein, qui est physicien centralien et qui est aussi philosophe, a une passion pour la montagne. Comment savoir que cet homme que nous voyons souvent sur nos écrans de télévision est aussi un amoureux des montagnes ? Quel point commun a-t-il avec Henri Russel, pour le citer si souvent ?
Alors, j'ai découvert Psychisme ascensionnel, écrit par Étienne Klein, donc, qui est aussi, comme vous l'avez dit, philosophe des sciences et physicien. Eh bien, très peu de temps avant de commencer à travailler sur Henri Russel. Et j'ai trouvé de nombreux points communs. Par exemple, Étienne Klein parle aussi de son amour pour la montagne et paradoxalement de ce sentiment de liberté qu'il a en montagne comme Russel. Alors qu'il le dit très bien, la montagne est un lieu de contrainte. La montagne, il faut obéir à certains code en quelque sorte du montagnard pour éviter les dangers, pour bien gravir, pour arriver au sommet, pour redescendre. Et pourtant, paradoxalement, en montagne, on découvre aussi ou on ressent une certaine liberté. Et il montre aussi toute la joie qu'il a à gravir les montagnes. Donc je me disais qu'il fallait faire le parallèle entre Étienne Klein et Russel. Ça montre aussi la modernité de Russel.
Ah, tout à fait. Tout à fait, puisque en fait, je crois que Étienne Klein, il a 65 ans, il est complètement de notre époque et on le voit quand même très souvent. Il écrit de nombreux livres, on le voit intervenir souvent. Je voudrais citer Étienne Klein, justement, que vous citez souvent, un petit extrait de son livre, voilà, justement, dont vous parlez, Le psychisme ascensionnel. Je ne sais d'où m'est venue cette idée que la montagne est mon ami, que je l'aime. Et que par conséquent, en vertu d'un saint principe de réciprocité, elle doit m'aimer en retour. Voilà qui explique bien les points communs entre Russel et Klein. Donc, je reprends votre livre et je tombe sur le mot « âme » qui revient très souvent sous votre plume et sous la plume de Russel. Dès qu'il évoque sa relation avec les Pyrénées, l'âme n'est pas loin. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce que cela évoque pour vous, l'âme et les ascensions, quel lien y a-t-il entre les deux ?
Ah, quel lien y a-t-il entre les deux ? Eh bien, Bélita, un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est que pour Russel, l'ascension, c'est quitter les villes, c'est quitter le monde en quelque sorte terrestre, s'éloigner de tous les conflits, de tous les problèmes, et aller se rapprocher en quelque sorte du ciel. Et en même temps, ça oblige à donner le meilleur de soi-même. Il revient souvent sur cette idée que toute ascension oblige à donner le meilleur de soi-même. Et alors, je pense que quand on est obligé de donner le meilleur de soi-même, on finit plus ou moins par rejoindre son âme, en quelque sorte.
Et c'est ce que vous pensez. C'est votre pensée personnelle,
voilà,
en même temps.
Et si
vous le rejoignez, finalement.
Oui.
Finalement, vous n'êtes pas loin d'être une russelliste. Je ne sais pas comment il faut dire, si ça n'est pas pyrénéiste, mais une russelliste.
Voilà. Et si je cite aussi Victor Hugo, pardon, c'est pour deux raisons. D'une part, parce qu'il vient à Gavarnie et qu'il va écrire quelques 500 vers sur le cirque de Gavarnie dans son œuvre Dieu. Et 500 vers dans lesquels, par exemple, il évoque un orage monstrueux dans le cirque de Gavarnie. Or, Russel décrit aussi X orages auxquels il a assisté. Et pour Victor Hugo, tout est plein d'âme.
Oui, oui, oui. En fait, aussi, là aussi, ils se retrouvent tous les deux.
Voilà.
Oui, finalement,
Russel aussi est profondément romantique dans sa façon d'aborder la montagne et d'en parler. Et bon, pour Rousseau, pour Victor Hugo, il y a cette communion avec la nature et avec l'âme, en quelque sorte, de la nature.
On voit leur point commun. Oui. Nous allons écouter un morceau de Chopin, puisque Russell parlait souvent de la musique qu'il entendait dans ces montagnes, et il citait, entre autres, Chopin.
Parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Anne Lasserre, je vais vous demander de nous faire une petite lecture.
Oui, quand Russell quitte le sommet du Netto, on dirait maintenant l'Aneto, il écrit « Seul dans la brume, avec des kilomètres de neige autour de soi, des abîmes sous les pieds, le tonnerre et la grêle sur la tête, on sent frémir son corps, mais l'âme grandit, s'élève et se sent plus puissante que la tempête et l'électricité, qui après tout font presque toujours plus de bruit que d'autres choses. »
Merci beaucoup. Je voudrais vous poser encore une question sur l'apport de Russell sur les Pyrénées. Est-ce qu'on pourrait aider les enfants aujourd'hui à découvrir les montagnes à travers Russell? Est-ce que vous pensez que les enfants pourraient avoir une vision autre que touristique de la montagne au XXIe siècle? Parce que Russell, c'est au XIXe, et aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. Et aller en montagne avec une vision large, plutôt que d'entrer dans les pieds, ça serait plus intéressant pour les jeunes.
Ah oui, je pense que ça serait une excellente idée, d'une part parce qu'il y a de très beaux textes, d'autre part parce qu'il sait parfaitement décrire la montagne et surtout ce qu'il y ressent, ce que la montagne lui apporte. Donc je pense que pour des enfants, certains passages seraient assez porteurs justement. Ce serait une très bonne idée.
Est-ce qu'il ne faudrait pas écrire ce livre de façon plus simple pour que des enfants de 8 à 12 ans trouvent aussi matière à creuser, à se nourrir pour avoir envie de partir en montagne comme nous les adultes, nous pouvons avoir envie de partir en montagne après avoir lu ce livre?
Alors, Bellita, c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que je crois, alors je ne sais plus exactement la date, mais il y a un éditeur, enfin, ou je ne sais plus qui est à l'origine du projet, qui a écrit Souvenir, qui a repris Souvenir d'un montagnard pour la jeunesse. Alors bon, je ne sais plus, je
ne l'ai jamais lu.
Non, moi je ne l'ai jamais eu entre les mains, mais j'ai vu que cet ouvrage avait existé, qu'il y avait eu le projet et qu'il a été réalisé.
Et donc, c'est un sujet qu'il faut creuser, donc pour nos jeunes. Nous allons arriver bientôt à la conclusion, Anne, et je voudrais vous remercier d'être venue parler à nos auditeurs, parler de ces Pyrénées que vous aimez, que vous connaissez, même si je crois que vous n'êtes pas une grande montagnarde, je crois que vous êtes plus intellectuelle qu'une grande marcheuse, donc je vous remercie pour eux. Nous n'allons pas tout dire de votre livre, car il faut que les lecteurs et les auditeurs fassent aillent vers votre livre et vous découvrent, parce qu'il y a tant de richesses dans ce livre. Je voudrais remercier encore une fois votre maison d'édition, les éditions Cairn. Je rappelle que le Cairn, c'est le monticule de pierre que nous trouvons érigé en montagne au bord des chemins et que l'éditeur en chef a choisi ce nom avec un côté philosophique parce qu'il est parti, il a créé sa propre maison d'édition et aujourd'hui il a 600 titres donc, dans son registre. Et je voudrais pour conclure dire que grâce à vous, Anne Lasserverne, j'ai découvert un Henri Russel passionné, romantique, enthousiasme, et je vous remercie beaucoup, et j'espère que nos lecteurs vont avoir aussi une belle découverte en lisant votre livre.
Et moi, je vous remercie de m'avoir accueilli dans les studios de Radio Présence Toulouse. C'est toujours un très grand bonheur de venir dans ces studios, et surtout pour parler d'un livre, pour parler d'Henri Russel.
Merci beaucoup, Anne Lasserre.
Merci, Vélita.